Deuxième partie, août 1942. Chapitre 1. Malte. L'hydravion perdit de l'altitude et le plan d'eau de Kellafrana scintilla soudain sous les ailes. L'instant d'après, le Short Sunderland caressait la crête des vagues, puis se posait dans une gerbe d'écume. Pendant des heures, l'appareil avait volé très bas pour échapper aux avions ennemis. Mais ceux-ci avaient cette nuit-là d'autres priorités que de s'en prendre à un hydravion du Royal Army Medical Corps, d'autant que les Sunderland servaient le plus souvent d'avions de reconnaissance. « Bienvenue à Malte !» cria le pilote en se tournant vers Kevin Barnes, assis à ses côtés. Kristen regarda par le hublot. Un canot déjà se dirigeait vers eux. Avant de décoller de Gibraltar, le colonel avait envoyé un câble à Phyllis O'Brien. Les trois hommes étaient partis d'Édimbourg 15 jours plus tôt pour rejoindre le convoi, celui de la dernière chance pour Malte, qui se formait dans un fjord d'Écosse. Une longue traversée les conduisit au sud de l'Espagne, où attendaient d'autres bâtiments venus de Sierra Leone. Ils devaient monter sur le porte-avions Eagle. Au dernier moment, le colonel se ravisa. Quitte à rester quelques jours de plus à Gibraltar, il lui parut sage d'attendre le départ du Sunderland, qui décollerait le soir du 14 août pour aller rapporter à Malte des médicaments urgents. Barnes avait eu le nez fin, car l'Eagle fut le premier bâtiment du convoi à sombrer corps et biens. Dans la nuit du 10 au 11 août, l'armada anglaise pénétrait en Méditerranée. Elle comprenait plusieurs dizaines de bateaux, porte-avions, navires de guerre, destroyers, corvettes, remorqueurs, dragueurs de mines et, surtout, 14 bâtiments bourrés de ravitaillement et un tanker avec 11 000 tonnes de carburant dans les soutes. Les services de renseignements allemands et italiens n'étaient pas restés inactifs. L'ennemi était au rendez-vous avec ses avions, ses sous-marins et ses navires de guerre. La bataille fit rage et, dans le camp des Alliés, les pertes devinrent de plus en plus lourdes au fil des heures. Finalement, 4 navires marchands sur 14 atteignirent la Valette, avec 32 000 tonnes de vivres. Puis, au petit matin du 15 août, alors qu'on ne l'attendait plus, le pétrolier Ohio arriva à son tour. À 2 doigts de couler, il parvint à franchir les dernières centaines de mètres, cargaison intacte. Presque tous les Maltais étant catholiques, il ne pouvait s'agir à leurs yeux que d'un miracle, puisque l'Ohio était entré dans le port un jour sacré entre tous, celui de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie au ciel. Pour les Anglais, le convoi avait un nom de code, Pedestal. Les Iliens de Malte le rebaptisèrent Santa Maria. « Bienvenue à Malte !» dit à son tour Phyllis O'Brien, quand, avec le major Kennedy, il accueillit Barnes, Lloyd et Tapa sur la terre ferme. Ils se serrèrent la main, montèrent dans les 2 jeeps Willys qui les attendaient, puis prirent le chemin de la Valette, où la population ivre de bonheur fêtait par des cris de joie et des cantiques la plus extraordinaire assomption de son histoire. Le lendemain matin, tandis que les Maltais continuaient de saluer l'arrivée du convoi de Santa Maria, le colonel Barnes, le major Kennedy, Phyllis O'Brien, Kristen Lloyd et Tul Bahadur Tapa se retrouvaient autour d'une table ronde, dans une des salles souterraines de la Valette, en contrebas de l'Opéra Royal, dévasté par les bombes. L'épaisseur des murs taillés dans la roche tendre protégeait contre l'ardeur du soleil, mais la plupart des salles étaient minuscules. Se forçant à sourire, Kristen se sentait mal à l'aise dans cet oppressant labyrinthe souterrain. Arborant désormais une barbe grisonnante, il semblait vieilli de plusieurs années. Mais cette transformation effaçait en partie la différence qu'il y avait entre lui et Monseigneur da Silva. Cela suffirait-il? Les Allemands n'auraient a priori aucune raison de se méfier d'un diplomate du Vatican. Hitler, allié des Italiens, ménageait le Saint-Siège. Formé dans la tradition catholique, comme Himmler et Goebbels, il se méfiait de l'Église, mais restait prudent car une partie du haut clergé lui était favorable. Sur le passeport de da Silva, ramené du Caire, les coups de tampon officiels, réalisé à Jérusalem par une équipe de faussaires, attestait que le faux prélat indien s'était attardé en Palestine avant de passer en Turquie. La suite de son itinéraire fictif rendrait difficile toute vérification par les Allemands. Da Silva était censé s'être rendu en bateau dans l'île grecque de Mytilène et une note d'hôtel prouvait sa présence à Athènes le 28 juillet. De la capitale grecque, il avait poursuivi sa route jusqu'à Igoumenitsa, puis, traversant l'Adriatique, gagné le port italien d'Otrante. Autrement dit, conclut le colonel, en se tournant vers Christen, votre alter ego Da Silva, paix à son âme, est déjà en Italie avec un peu d'avance sur vous, je le crains. Mais rien n'interdit à un ecclésiastique de se reposer dans un monastère. C'est ce qu'il fera donc, mais il n'y a pas de temps à perdre. Il faut que vous soyez à Rome dans une quinzaine de jours. Notre ami Adrian Foster vous y attend. Vous aurez votre voiture et tous les papiers nécessaires. Tous les chemins mènent à Rome, ironisa Christen en se lissant la barbe. Reste à savoir comment nous passerons en Italie. Je ne vous cacherai pas qu'il y a là un problème, intervint Phyllis O'Brien. Aucun pêcheur de Malte n'accepte de tenter l'aventure. Un sous-marin serait la solution. Hors de question de toute façon, s'écria Christen. Je l'ai déjà dit et redit, je suis claustrophobe. Oh, vous auriez pu être endormi durant la traversée, répliqua O'Brien, mais nous n'avons pas retenu l'option sous-marin. Le détroit est vraiment trop dangereux. Reste une possibilité, l'avion. Nous pourrions larguer nos deux héros en parachute. Le Gurkha s'agita sur sa chaise et Christen répondit à sa place. Ne rêvons pas, colonel. Dois-je vous rappeler que M. Tapa n'a plus 20 ans? Oh, il n'y a pas d'âge pour sauter en parachute, fit O'Brien, mais cette possibilité, à vrai dire, ne nous plaît qu'à demi. J'ai consulté des spécialistes de la RAF. À leur avis, un parachutage ne serait envisageable qu'avec des hommes bien entraînés et largués à haute altitude. Barnes se servit une rasade de gin. Il avait eu la bonne idée d'apporter quelques précieuses bouteilles de Gibraltar. Il nous faut donc trouver une solution plus réaliste, maugréa le colonel. Je compte sur vous, Phyllis. Vous êtes un créatif. Fort bien, reprit Christen. Faisons comme si le problème était réglé. Pourriez-vous nous préciser, colonel, ce que nous ferons une fois en Italie? L'officier secoua la tête. Ma foi, c'était très simple. Les deux hommes n'auraient qu'à filer sur Rome, puis prendre contact avec Adrian Foster, lequel leur remettrait les clés de la voiture, les documents nécessaires et un passeport de service pour Tapa. D'ici là, d'ailleurs, l'opération Bushido serait peut-être annulée, et le serait même à coup sûr si Londres obtenait la preuve que Bose avait quitté l'Europe. Tapa griffonna quelques mots et passa la feuille à Christen. Le subadar-major aimerait savoir de quelles armes nous disposerons. Barnes hocha la tête. Vous n'en aurez pas besoin en Italie. En cas d'urgence, j'imagine que M. Tapa utilisera son koukri. Le Gurkha eut un large sourire. Il ne se séparait jamais, en effet, de son redoutable poignard. Fort bien, reprit Barnes. Deuxième étape, la frontière autrichienne. Il serait imprudent et suicidaire d'avoir des armes à feu pour la traversée. Les Allemands du Reich se moquent des règlements internationaux comme de leur première chemise brune. Diplomate ou pas, ils n'hésiteraient pas à vous arrêter. Une fois en Allemagne, vous contacterez l'un des agents dormants que nous avons récemment réveillés. Il vous remettra des armes. Le colonel se saisit d'un crayon et se mit à dessiner des figures géométriques pour se donner une contenance. Reste un problème. Selon nos informateurs de Delhi et Goa, Monseigneur Da Silva était à la solde des Boches. En apprenant cela, j'ai d'abord pensé annuler Bushido. Mais mon ami Jackson m'a fait remarquer que cet élément inattendu serait pour vous un sérieux atout. Vous devriez être bien reçu en Allemagne. Oh, Da Silva n'était pas vraiment un espion, rassurez-vous. Il n'est sans doute pas connu à Berlin. Non, c'était un besogneux, un simple laquais sans foi ni loi. Et oui, même les curés ne sont plus ce qu'ils étaient. Ce qui intéressait ce doux prélat, c'était l'argent et le pouvoir. Le vœu de pauvreté n'exclut pas le goût du luxe. les belles résidences et les grosses voitures. C'est pour le fric que Da Silva avait accepté de faire passer des microfilms. Il devait les remettre à un espion allemand au Caire. Le major va vous en dire plus. Kennedy raconta comment il avait, par hasard, découvert les microfilms dans la reliure des sept piliers de la sagesse. Il s'agit en fait, précisa-t-il, d'une liste de 302 personnes. La cinquième colonne des Indiens, prêts à collaborer avec l'Allemagne et le Japon, au cas où ceux-ci décideraient d'envahir l'Inde. Hypothèse très improbable aujourd'hui, j'en conviens, mais qui sait ce que l'avenir nous réserve. La liste comprend des intellectuels, des professeurs, des hauts fonctionnaires et des cadres du RSS. Il y a des SS en Inde, s'étonna O'Brien. Christine eut un sourire. Non, le RSS est un parti nationaliste indien. Le Rashtriya Swayamsevak Sangh. Le sigle SS est une simple coïncidence. Pour votre gouverne, sachez aussi qu'il y a des millions de croix gammées en Inde. Rien à voir avec le national-socialisme. N'empêche, reprit le colonel, cette liste est pour nous du plus grand intérêt. Tous ces gens, prêts à nous poignarder dans le dos, sont désormais sous surveillance en Inde 24 heures sur 24. Bon, vous me direz que c'était aussi le cas de Bose l'an dernier, ce qui ne l'a pas empêché de jouer les filles de l'air, au nez et à la barbe de 200 000 Anglais. Cela montre bien, entre parenthèses, qu'il suffit de se déguiser en mufti ou en évêque pour déjouer une surveillance. Barnes sortit son paquet de capstan et alluma une cigarette. L'atmosphère confinée des lieux lui pesait. Malgré la chaleur écrasante de cette belle journée d'août, il lui tardait de se retrouver à l'air libre. « Bref, monsieur Lloyd, poursuivit-il, votre arrivée devrait ravir les Allemands. Nous avons refait des microfilms à l'identique, avec d'autres noms, bien sûr. Vous devinez lesquels? Ceux de nos amis de la police. Quand vous serez à Berlin, vous irez remettre les sept piliers de la sagesse à qui de droit. Nous allons refaire la reliure. Par ailleurs, j'ai appris une bonne nouvelle à Gibraltar. Nous avons découvert à Alexandrie l'espion allemand que Da Silva devait contacter au Caire. Un certain Kurt Wolf, qui se faisait passer pour un archéologue grec. Eh bien, cet amoureux de vieilles pierres a parlé avant de mourir. Un brutal infarctus, lui aussi. Le climat d'Égypte, sans doute. Christen restait sceptique. Berlin sait sûrement que leur agent n'a pas rencontré Da Silva au Caire. En effet, et nous avons décrypté sans mal le message qu'il a envoyé à Berlin. Sur ce point, au moins, nous faisons beaucoup mieux que les Allemands. Bon, un peu d'intox n'a jamais fait de mal à personne. Nous allons nous arranger pour leur faire croire que Kurt Wolf travaillait aussi pour nous. Ce qui expliquera pourquoi Da Silva s'en est méfié et a préféré filer à l'anglaise en Palestine. Scénario un peu fumeux, maugréa O'Brien. Nous n'en avons pas de meilleur. Pourquoi donc les Anglais prennent-ils toujours les Allemands pour des crétins? Demanda Christine. Détrompez-vous, monsieur Lloyd. Les Allemands découvriront en effet le poteau rose, mais ça leur prendra du temps. Il leur faudra enquêter, vérifier, tout passer au crible. Or, ils n'ont plus beaucoup d'espions en Inde. L'Inde est un pays pauvre, colonel. Tout s'y achète, comme Da Silva vient de nous en donner la preuve. Tout homme a son prix, vous le savez bien. Raison de plus pour ne pas vous attarder en Allemagne, reprit Barnes. Avec un peu de chance, vous serez là-bas début septembre. À condition que vous ne nous fassiez pas compagnie en route, monsieur Lloyd. Tapa eut un de ses rares sourires. Eh oui, colonel, traduisit Christine, c'est un risque à courir. Bien minime, avouez-le, à côté de celui que le subadar-major et moi-même allons prendre en nous jetant dans la gueule du loup. Quelques semaines auparavant, le colonel Barnes et son ami Jackson étaient revenus bredouilles de leur passage à Édimbourg. Christine n'avait pas nié qu'ils connaissaient bien Utah et Martin Wurtz, mais il s'agissait selon lui d'une simple relation amicale. En fait, ajouta-t-il, je connaissais surtout Martin. Il précisa qu'il avait rencontré Wurtz pour la première fois au Brésil. Lors d'un cocktail à l'ambassade d'Allemagne, Christine était tombée sur ce jeune Autrichien qui semblait ravi de parler littérature. « Nous avons sympathisé, poursuivit l'anglo-indien. Je l'avais pris pour un attaché culturel. Vous savez, j'imagine qu'il y a près d'un million de Brésiliens d'origine allemande. Martin s'occupait, disait-il, des centaines d'écoles allemandes implantées là-bas. Par la suite, je l'ai souvent revu en Argentine. C'est seulement plus tard que j'ai appris qu'il travaillait pour l'Abwehr. Tout cela était possible, mais invérifiable. Vous avez également fréquenté ce Martin Wurtz à Berlin, insista le colonel. Christine sembla hésiter un instant avant de répondre. C'est la vie, colonel. Je ne fais pas partie de la police, moi. Je n'ai donc pas de dossier secret sur les gens que je rencontre. Alors je fais confiance, tout simplement. Quitte à m'en mordre les doigts ensuite. Ces liens avec Jutta et Martin Wurtz expliquent peut-être pourquoi vous vous êtes retrouvé en prison, grommela Barnes. Vous semblez oublier, colonel, qu'à la même époque, votre ami le premier ministre Chamberlain flirtait avec le Führer à Berchtesgaden, sous les applaudissements nourris des journalistes et des députés anglais. À Londres, Ribbentrop était la coqueluche de la haute société et déjeunait à Downing Street. Ne parlons pas de notre ambassadeur Henderson, de son collègue américain Kennedy, de notre ancien vice-roi des Indes, Halifax, du baron Mountemple, de Lord Londonderry, du général Hamilton, de l'archevêque de Canterbury, des sœurs Mitford ou du roi Édouard VIII. Le gratin, en somme. Bizarre, ce sont toujours les lampistes qui trinquent, jamais les grosses légumes. Oh, personne ne vous prendra jamais pour un lampiste, monsieur Lloyd. Et d'ailleurs, vous avez tort sur le fond, puisque des gens comme l'amiral Danville et les Moseley sont sous les verrous. Or, la nouvelle épouse de Moseley, Diana Mitford, est tout de même la cousine de Winston Churchill. À vrai dire, poursuivit Christine, comme s'il n'avait pas entendu, c'est aux Jeux olympiques de Berlin que j'ai rencontré Jutta, la sœur jumelle de Martin. Je l'ai revue au Sportpalast le jour du mariage des Moseley. Mais moi, je ne suis jamais allé à la chasse avec Göring ou Ribbentrop. Que peut-on me reprocher? Bon, les Wurtz travaillent à l'Abwehr, mais l'Abwehr n'est pas un repère de nazis. Ils n'ont du reste pas eu le choix. On a toujours le choix, intervint Jackson, qui, assis sur son fauteuil, semblait beaucoup souffrir ce jour-là. Christine hocha la tête. Non, monsieur, les Wurtz n'avaient pas le choix. Une de leurs arrière-grand-mères était juive, figurez-vous, et Hitler le sait. Il le sait d'autant mieux qu'il connaît la famille depuis un quart de siècle. Barnes parut sceptique. Soyons sérieux, monsieur Lloyd. Vous n'allez pas me dire que le Führer recrute pour ses services des renseignements des gens qui ont du sang juif dans les veines. Et si, colonel, à l'occasion. On racontait même à Berlin que Heydrich était juif. Impossible, c'était le pire des antisémites. Je ne suis pas généalogiste, je me contente de vous répéter ce que j'ai entendu. Pour les Wurtz, en tout cas, le doute n'est pas permis, puisque Jutta elle-même me l'a confirmé. Hitler les connaît depuis longtemps. Il les protégera tant que ça l'arrange, mais n'hésitera pas à les éliminer un jour. Barnes abattit sa dernière carte. Jutta Wurtz n'était donc pas votre maîtresse? Christine éclata d'un grand rire. Oh non, elle ne l'a même jamais été. Où êtes-vous allé chercher cela? Barnes lui montra la photo. Ma foi, fit Christine avec un sourire, ce cliché prouve en effet que nous avons pris le champagne ensemble. Il y a loin, croyez-moi, de la coupe aux lèvres. Monastère de Hochlingern, Allemagne. Comme il le faisait une fois par mois au 12e coup de minuit, le père Klaus Drucker quitta la planche de bois blanc qui lui servait de lit et se saisit d'une lampe de poche. Il se glissa dans le couloir, remonta vers le cloître, puis descendit lentement l'escalier de pierre qui conduisait à la cave, dont il était le seul à avoir la clé. Il progressait avec difficulté, car une grenade française lui avait arraché la jambe droite en 1915, alors qu'il transmettait en morse un message urgent au quartier général, ce qui ne l'empêcha pas de poursuivre avant d'appeler au secours. Malgré les années, il avait 80 ans, le moine ne s'était jamais habitué à sa prothèse en bois, et il lui fallut un quart d'heure ce soir-là pour descendre les 60 marches. Une fois dans la cave, le prêtre referma la porte derrière lui et se rendit à l'autre extrémité de la salle, là où il avait aménagé une niche dans le mur, derrière les casiers à bouteilles. Les grands crus avaient été emportés par un régiment de SS au début de la guerre. Seul restait le vin de messe. Sans trop de mal, il dégagea la grosse valise qu'il y avait cachée. L'émetteur radio apparut. Le moine le brancha à une prise de courant, puis tendit l'oreille. Il en était ainsi depuis 3 ans. Une fois par mois, et une fois seulement, au cours de la nuit du 16 au 17, il devait attendre des instructions de Londres. Le père Klaus avait été professeur de philosophie à Cologne avant de devenir prêtre. Refusant la moindre compromission avec le Parti national-socialiste, il critiqua le concordat signé en 1933 par le gouvernement allemand et le Saint-Siège. Le pape, certes, avait ses raisons. Il fallait en priorité lutter contre le communisme. Moyennant quoi, c'était bien Moscou qui, quelques années plus tard, signait un pacte avec Berlin. Comprenne qui pourra. Mais le moine, au moins, n'en doutait pas. Hitler était l'antéchrist. Le hasard ou la providence fit bien les choses. En 1938, le cardinal Armstrong se rendit à Hollingen, au sud de Munich, pour une retraite spirituelle. Le père Klaus lui fit part de ses inquiétudes pour la chrétienté allemande. Ses réflexions ne tombèrent pas dans l'oreille d'un sourd. Quelques mois plus tard, un discret émissaire de l'Intelligence Service s'arrêta au monastère. Et c'est ainsi que l'ancien professeur de philosophie entra au service de Sa Majesté. On lui fit parvenir un poste de radio, des armes et de fortes sommes d'argent. Le père Klaus savait ce qu'il risquait, malgré son âge, sa jambe de bois et ses décorations. La torture et la mort. Seul lui importait la vie éternelle. Il préférait trahir l'Allemagne du Reich plutôt que de renoncer aux valeurs qui étaient les siennes. À 00:31, l'appareil radio grésilla et un bref message passa sur les ondes. Le cœur du père Klaus s'accéléra, comme jadis sur le front de Verdun. En guise d'accusé de réception, il tapota un seul mot sur le couineur à lame. Alcibiade. Ou plutôt Alcibiade, A-2-L-C-I-B-I-A-D-E, car il n'oublia pas de répéter la première consonne, ce qui montrerait aux Anglais, comme convenu, qu'il transmettait de son plein gré et non sous la menace des Allemands. Le moine glissa le poste dans sa niche, puis remit en place les briques qui bouchaient le trou. Le message de Londres était simple. On lui annonçait l'arrivée prochaine de 2 visiteurs auxquels il devrait remettre armes et argent. Le mot de passe serait le premier de sa liste. Il faut tout pour faire un monde. Ce à quoi Drucker devrait répondre, surtout par les temps qui courent. En remontant les 60 marches de l'escalier, le père Klaus repensa aux mots de la Bible qu'il avait prononcés à la messe de l'Assomption. Benedictus Dominus, qui te direxit in vulnera capitis, principis inimicorum nostrorum. Oui, se dit-il, pour se donner du courage, béni soit le Seigneur qui t'a guidé pour frapper à la tête le chef de nos ennemis.